Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. À 18h20, je recevrai un homme qui a la nature au cœur. C'est d'ailleurs le titre de son livre, Gérard Bertrand, vigneron, entrepreneur humaniste et pionnier de la biodynamie. Livre ses clés pour contribuer à un monde meilleur. Vaste programme. À partir de 18h30, avec les grandes voix d'Europe 1, on reviendra sur l'offensive du gouvernement en matière de sécurité après le drame d'Avignon. Également sur le nouveau rebondissement dans le feuilleton des régionales en PACA. Finalement, Sophie Cluzel, la secrétaire d'État, dirigera bien une liste LREM face à celle de Renaud Muselier, alors que la droite se déchire depuis des jours sur une alliance politique dans cette région. Et puis dans votre grand débat du Club des idées, on vous emmènera dans l'espace. Après avoir été le terrain de jeu des Russes et des Américains, il s'est transformé en véritable enjeu pour les entreprises privées. Hier, pour la première fois, la fusée Starship de SpaceX a réussi son atterrissage. C'est un exploit. Alors quels sont les enjeux et les dangers aussi de cette privatisation de l'espace? Et avec tout ça, n'est-on pas en train de faire de l'espace une poubelle? On en débattra à partir de 19h20. Mais avant cela, c'est l'info avec le journal présenté par Christophe Lamar. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle.
Merci à vous d'écouter Europe 1, il est tout pile 18h.
Je crois que les trafiquants ne gagneront pas et les moyens très importants sont mis pour gagner cette guerre.
Davantage de moyens pour lutter contre le trafic de drogue. Le ministre de l'Intérieur tente de répondre à la colère qui monte dans les rangs de la police.
La sécurité qui pourrait bien se retrouver au centre de la prochaine présidentielle. L'exécutif sait qu'il doit reprendre la main s'il ne veut pas laisser un boulevard à l'opposition.
L'arrestation de 6 membres d'un groupuscule néo-nazi. Ils envisageaient une action violente contre une loge maçonnique.
Pas d'éolien chez nous. Colère et démonstration de force des pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc contre un projet de parc éolien au large des côtes bretonnes.
Bizutage traumatisant pour un jeune pilote de l'armée de l'air sur la base de Solenzara en Corse, ligoté à une cible et cerné par des tirs d'avions de combat. Il a porté plainte.
Les pharmaciens et les médecins de ville veulent prendre leur part dans l'élargissement de la campagne vaccinale. Ils réclament des vaccins ARN messagers pour les moins de 55 ans et pas seulement de l'AstraZeneca.
Pomme, Philippe Catherine, Trio, quelques-uns des artistes à l'affiche du Printemps de Bourges cet été du 22 au 27 juin. Il y en a plein d'autres. On vous en parle à la fin de ce journal. Et puis la Bourse de Paris termine en hausse de 0,45% à 6385 points.
Bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
Alors, comment ça se présente pour demain? Nette amélioration, c'est ça?
Ah oui, le temps change vraiment et en bien cette fois-ci. Chouette. C'est une parenthèse ensoleillée et chaude que nous allons vivre ce week-end seulement, mais il va falloir en profiter. Les températures vont même atteindre les 30 degrés dans certaines régions. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'homme qui a abattu un policier à Avignon est toujours en fuite dans un premier temps. On a pensé qu'il s'agissait du dealer qui avait sorti son arme et ouvert le feu, mais ce soir, ce n'est plus une certitude. Tous les moyens sont sur la table pour retrouver le ou les auteurs du meurtre de ce policier, affirme le ministre de l'Intérieur.
Une interview au Figaro ce matin, un déplacement dans les Alpes de Haute-Provence à la mi-journée. Gérald Darmanin martèle le même discours. La délinquance se nourrit du trafic de stupéfiants et les trafiquants ne gagneront pas.
Le trafic de stupéfiants, c'est vraiment la mère des batailles contre la délinquance, parce que c'est celle qui provoque des cambriolages, des agressions sur la voie publique, des morts sur la route. Que le président de la République nous a demandé d'être extrêmement ferme contre ce trafic de stupéfiants. Les résultats sont là. Parce que l'hyperprésence des policiers et des gendarmes crée une instabilité chez les trafiquants, ils répondent. Et je crois que le drame d'Avignon est une de ces réponses, que les trafiquants ne gagneront pas et que les policiers et les gendarmes qui sont en deuil aujourd'hui, auront les moyens de continuer à lutter contre ces trafics.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui maintient le cap, cette hyper-présence policière sur les lieux de deal gêne les trafics, donc les trafiquants. Mais la mort de ce policier, la deuxième en deux semaines après l'attentat contre une fonctionnaire à Rambouillet, provoque émoi et colère dans les rangs de la police.
Les syndicats appellent à une marche citoyenne le 19 mai à Paris et suspendent pour l'instant leur participation au Beauvau de la sécurité. L'opposition de son côté réclame des mesures plus fortes. La droite, notamment, demande un durcissement des peines. Louis de Ragnel, la pression se fait de plus en plus lourde sur le gouvernement.
Oui, et désormais la priorité donc pour le gouvernement, c'est d'abord d'essayer de montrer que sa politique apporte des réponses concrètes à l'insécurité et au malaise inégalé dans la police. Un message très compliqué à faire passer avec les faits divers sordides qui se multiplient. Mais à un an de la présidentielle, l'enjeu est surtout politique. Le gouvernement a bien compris que la question de l'insécurité et de l'ultra-violence est son talon d'Achille. C'est pourquoi Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, multiplient les déclarations martiales dans la presse. L'enjeu est tellement important que le Premier ministre Jean Castex réagit désormais systématiquement dès que les forces de l'ordre sont attaquées. Avec un objectif, éviter que la droite prenne trop de place dans le débat public pour attaquer le gouvernement. Cette semaine, Xavier Bertrand a tiré à boulets rouges sur Emmanuel Macron, notamment sur l'insécurité et l'immigration incontrôlée. Une charge qui a laissé des traces, selon l'aveu d'un conseiller de l'exécutif, qui reconnaît que la séquence est très mauvaise, et de rappeler le titre de l'entretien d'Emmanuel Macron au Figaro le 18 avril dernier, « Je me bats pour le droit à la vie paisible ». Une phrase qui, aujourd'hui, peut lui faire très mal politiquement.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1. Il y a la lutte contre les trafics, il y a la lutte aussi contre le terrorisme.
Oui, on a appris que 6 membres d'un groupuscule néo-nazi avaient été interpellés en début de semaine. Guillaume Bier, ils sont soupçonnés d'avoir voulu commettre un attentat contre une loge maçonnique.
Oui, c'était leur projet, l'objet de leur discussion et même la raison pour laquelle ils avaient commencé à faire des repérages. Ces sympathisants d'ultra-droite, admirateurs d'Adolf Hitler et du Troisième Reich, ont été arrêtés mardi dans le Bas-Rhin et dans le Doubs. Leur groupuscule baptisé Honneur et Nation était dans le collimateur du parquet national antiterroriste qui avait ouvert une enquête préliminaire dès le mois de février. Les investigations des services de renseignement ont montré que ces suspects envisageaient de commettre un attentat à l'explosif, notamment contre une loge maçonnique de Moselle. Pas de date précise, pas d'explosif retrouvé en perquisition, mais suffisamment d'indices graves et concordants pour que 3 des suspects, 2 hommes et une femme âgés de 29 à 56 ans, soient présentés à un juge antiterroriste pour être mis en examen. Des personnes dont le groupuscule était aussi en lien avec Rémi Daillet, figure complotiste exilée en Malaisie, mis en cause, vous souvenez, dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia le mois dernier.
Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1.
Dans la baie de Saint-Brieuc, en Bretagne, les pêcheurs s'opposent au projet de parc éolien offshore.
62 éoliennes devraient sortir de mer au milieu de la baie de Saint-Brieuc d'ici 2 ans et demi. C'est en pleine zone de pêche. Le chantier a démarré cette semaine. Il rencontre une vive opposition de la population, mais surtout des pêcheurs. Et ce matin, Charles Guyard, ils ont mené une véritable opération coup de poing.
Oui, effectivement, la mer était d'huile ce matin, mais c'est bel et bien un avis de tempête qui agite la baie de Saint-Brieuc. À coups de cornes de brume et tirs de fusées de détresse, quelques 60 bateaux de pêche ont encerclé le chantier du parc, implanté au milieu d'une zone où on taquine la sole, le turbo et surtout la coquille Saint-Jacques. Alain Coudray, le président du comité des pêches des Côtes d'Armor.
J'espère que ça va faire réagir le gouvernement, parce que quand les pêcheurs commencent à se réunir comme ça, ça sent pas bon.
Au Cap Fréhel, parmi la centaine de manifestants, quelques écharpes tricolores comme celle de Karim Devim, elle est élue en baie de Somme, où là aussi, un parc éolien en mer cristallise la colère des professionnels.
Bah, ça fait fuir le poisson. Quand ils ont foré il y a à peu près 2 ans, on a eu 50% de pêche en moins quand même.
Il n'y a pas eu de compensation ?
Non, pas encore. On devrait en avoir, il paraîtrait, mais on n'attend pas après ça pour vivre. Hein.
Le tourisme et la pêche, voilà ce qui fait notamment vivre Erquy, dont la commune est aux premières loges du projet pour lequel le maire Henri Labbé est opposé depuis l'appel d'offres il y a 10 ans.
C'est la première commune la plus impactée pour les éoliennes. On a quand même la criée d'Erquy, il y a 80 pêcheurs, 300 emplois. On nous dit le tourisme éolien. Est-ce que les gens vont venir à Erquy pour aller voir les éoliennes en pleine mer ? Là, j'ai un doute.
Et à défaut de touristes, des militants pourraient en tout cas converger en nombre dans les environs, les pêcheurs appelant à un mouvement d'ampleur nationale.
Voilà Charles Guyeux, son reportage à Saint-Brieuc pour Europe 1.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal avec ce bizutage qui aurait pu tourner au drame sur une base aérienne de l'armée française.
Et puis le Printemps de Bourges, premier grand festival à ouvrir ses portes cet été.
A tout de suite. 18h08, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre sur Europe 1 et c'est un bizutage terrifiant. Ça s'est passé sur la base aérienne militaire de Solenzara en Corse. La victime est un jeune pilote de chasse.
Il a passé 20 minutes les mains attachées à un poteau. Ce poteau était planté sur une cible au milieu d'un champ de tir. Au-dessus de lui, des avions de combat, des Mirages qui tirent à balles réelles tout autour de lui. Le pilote a porté plainte et vous avez eu accès aux documents, Stéphane Frangy. Le récit et les photos sont glaçants.
Oui, on y voit un soldat dans le coffre d'un pick-up, ligoté, un sac sur la tête. Sur un autre cliché, il est toujours cagoulé. On le voit cette fois-ci sangler à un pylône. Pylône qui est marqué par des impacts et surtout, il est surmonté par une grande croix rouge. C'est une cible. Sur ce terrain de la côte est de la Corse, eh bien, il va passer 20 longues minutes dans le noir à entendre les va-et-vient d'avions de chasse Mirage tirés des obus à une distance qu'il estime à 500 mètres. Mais avant de briser la loi du silence, il aura fallu 2 ans à la victime pour se décider, un choix difficile, raconte son avocat, maître Frédéric Bernat.
Comme souvent dans l'armée, on n'ose pas, il a peur parce que dans cette institution, il ne fait pas bon dénoncer ce genre de pratiques qui sont institutionnalisées, connues au plus haut niveau du commandement et contre lesquelles rien n'est manifestement fait.
Alors l'armée de terre condamne des agissements qu'elle juge inacceptables, qui étaient connus dans ce cas précis puisqu'un processus disciplinaire interne a été enclenché il y a quelques mois et plusieurs soldats très sévèrement punis dans la chaîne chaînes de commandement sans que l'on sache leur nombre et la nature de ces sanctions.
Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille. La campagne de vaccination avec un nouveau record, plus de 600 000 injections pour la seule journée d'hier, et l'exécutif veut encore accélérer la cadence.
À partir de lundi, les moins de 50 ans pourront se faire vacciner avec 5 jours d'avance sur le calendrier initial, et à partir du 12 mai, mercredi 16h, tous les adultes pourront essayer de se faire vacciner à une seule condition. Il faut qu'un créneau soit déclaré libre le lendemain.
Oui, des rendez-vous qui ne pourront se faire qu'en centre de vaccination. Les pharmaciens et les médecins, eux, n'ont pas les sérums adaptés pour une population de moins de 55 ans. Ce que regrette d'ailleurs le docteur Jacques Battistoni. Il est président du syndicat MG France et il réclame, comme les pharmaciens, l'arrivée du Moderna en ville.
Il est tout à fait utilisable en ville. C'est quelque chose qui est envisagé avec le ministère de la Santé depuis plusieurs semaines. Il y a eu des expérimentations en Moselle à la fin du mois d'avril qui semblent concluantes. On connaît tous des patients qui nous disent « moi, je me ferai vacciner si vous me vaccinez, mais c'est compliqué pour moi d'aller en centre de vaccination ». Et puis, on sait que convaincre les gens, c'est notre travail, c'est notre atout dans la campagne de vaccination, parce qu'on connaît bien nos patients, on connaît leurs réticences, on sait aussi quels sont les arguments qui vont être importants pour eux. Et donc, on est les professionnels les mieux placés pour obtenir une adhésion plus massive de la population.
Jacques Battistoni, président du syndicat MG France, avec Anne Le Gall. La France qui veut toujours limiter au maximum la propagation des variants sur son sol. Les autorités élargissent la quarantaine obligatoire à 7 pays supplémentaires, dont la Turquie.
C'est le premier grand festival de l'été. Et c'est chez moi. Le printemps de Bourges s'offre une belle programmation.
Et ben vous en avez de la chance parce qu'il avait d'abord été décalé d'un mois et demi. Mais cette fois, c'est sûr, il ouvrira bien ses portes le 22 juin. Il les refermera le 27 et entre les deux, Angèle Châtelier, des spectateurs, oui, mais surtout 70 artistes.
Oui, et parmi eux, des têtes d'affiche. Jean-Louis Aubert, Alain Souchon, Feu Chatterton ou Catherine Ringer. Mais c'est la mort qui t'a assassiné, Mathia. D'ailleurs, cette 45e édition du Printemps de Bourges fait la part belle aux femmes. Pomme, Suzanne, Isulte, révélation féminine de l'année aux dernières victoires de la musique. Oh, le but du Printemps de Bourges est aussi de mettre en avant des découvertes, avec leur tremplin pour groupes émergents appelés les Inouïs, et puis de proposer des créations originales. Cette année, Jeanne Haddad rendra hommage à Prince. Mais ça, c'est pour la programmation. Cependant, à cause de la pandémie, il est évident que ce Printemps de Bourges 2021 n'aura pas la même saveur que d'habitude. Il n'y aura que 10 000 spectateurs au lieu de 80 000. À chaque concert, pas plus de 1 000 personnes, une jauge de 65% de spectateurs maximum, et puis le public sera assis. Mais Boris Vedel, directeur du festival, s'en contente et veut voir le verre à moitié plein.
Ça fait des années qu'on a vu aucun spectacle et qu'on a vu aucun artiste. Soit on décide d'être triste, soit on décide d'être heureux. Moi, personnellement, quand permet un petit peu de voir le soleil, j'oublie les nuages.
La billetterie pour acheter ses places pour le Printemps de Bourges 2021 ouvre ce mardi à 17h.
J'avoue du soleil. J'avoue du soleil. J'avoue du soleil. Voilà. Les bimbotoc.
Alain Souchon,
bien sûr.
Voilà. Angèle Châtelier du service culture d'Europe 1. Allez au football, la 36e journée de Ligue 1 avec un derby peut-être décisif pour le titre entre le Lens et le leader du championnat Lille. Coup d'envoi à 21h.
Et ce sera bien sûr à suivre en fil rouge sur Europe 1. Puis tiens, en foot, une dernière minute aussi, on apprend que l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin, champion du monde en 2018 avec l'équipe de France, rejoindra la saison prochaine les Tigres de Monterrey. C'est un club mexicain. Voilà, c'est la dernière info foot de la soirée.
Oui, puis il rejoindra comme ça quelqu'un qui s'appelle André-Pierre Gignac, un ancien Marseillais, comme ça, entre deux Marseillais. Voilà, ils auront de quoi se raconter des choses. Et puis en tennis, Rafael Nadal, ça c'est une surprise, éliminée en quart de finale du Masters 1000 de Madrid. Son vainqueur s'appelle Alexander Zverev. C'est pas vraiment un inconnu puisqu'il incarne lui aussi la relève du tennis mondial.
Merci Christophe Lamarre. On vous retrouve à 18h30 pour le rappel des titres et à 19h bien sûr pour un nouveau journal. Anissa Haddadi, demain, ça y est, les températures vont enfin grimper. Hein.
Ah puis fortement, hein. Dès le début de la journée, on va ressentir cette hausse. Alors le matin, elle sera timide cette hausse puisqu'on aura encore des températures entre 2 et 14 degrés sur l'ensemble du pays. Mais alors dans l'après-midi, les maximales vont vraiment grimper. Elles vont gagner par endroits jusqu'à 10 degrés. Alors on aura 17 à 21 degrés sur le grand quart nord-ouest. C'est là qu'il fera le plus frais. 17 à Brest, 18 à Lorient, 21 à Rennes et Belfort. Nous aurons 22 à 26 degrés sur l'ensemble du pays, 22 pour Paris, 24 à Marseille et à Lyon, 25 pour Saint-Etienne, 26 à Nîmes et Limoges. Et alors dans le sud, je vous le disais, On va frôler la barre des 30 degrés avec 28 degrés pour Toulouse, 29 à Biarritz et 30 degrés la maximale prévue pour Bordeaux. Dans le ciel, nous avons encore quelques petits nuages demain du côté du nord-ouest entre la Bretagne et les Hauts-de-France. Le vent souffle sur les côtes de la Manche avec quelques petites averses. Des Pays de la Loire jusqu'à l'Alsace sur la moitié nord en passant par la région parisienne. Là, le ciel sera couvert le matin mais dégagé dans l'après-midi. Il fera sec. Et puis au bord de la Méditerranée, bah, rien à signaler. Un grand soleil comme sur toute la moitié sud du pays. Faites attention tout de même, le vent d'OTAN reste toujours bien présent. Mais c'est une belle journée et un beau week-end qui nous attend.
Et attention au coup de soleil. Merci Anissa. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo.
À tout à l'heure.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un tout petit instant, je reçois Gérard Bertrand. Il est vigneron, entrepreneur et humaniste. À tout de suite. 18h17, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et je reçois ce soir un homme qui considère la nature avec humilité et respect. Bonsoir Gérard Bertrand.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct ce soir sur Europe 1. Vous avez été élu l'an dernier personnalité verte de l'année par The Drink Business. Vous êtes ancien rugbyman professionnel, vigneron, entrepreneur à la tête de 16 châteaux et domaines dans le sud de la France, ambassadeur d'une viticulture en harmonie avec la nature. Et vous publiez donc La nature au cœur pour un monde meilleur, c'est aux éditions Albin Michel. Alors vous avez aujourd'hui près de 1000 hectares répartis sur les plus beaux terroirs du Languedoc. D'abord une question d'actualité peut-être, vous avez été victime, j'imagine, comme tous les viticulteurs, de cet épisode de gel terrible qui a touché la France. Certaines exploitations viticoles ont perdu 80 à 100% des récoltes, vous aussi ?
Alors nous, on a été impactés, bien sûr, mais on a 20 à 25% de nos domaines qui ont été impactés, puisque comme ils sont répartis différents géographiquement, sur différents terroirs, on a été moins impactés. Et pour le Languedoc, la moyenne, c'est entre 30 et 40%. Mais c'est vrai qu'on a eu trois nuits, dont une à moins 8 degrés, c'était terrible.
Oui, des nuits terribles. Le gouvernement a annoncé 1 milliard d'euros d'aide aux agriculteurs touchés. L'État a été au rendez-vous sur ce coup-là ?
Oui, écoutez, l'État a fait son travail. Maintenant, c'est aux assurances aussi de réinventer un nouveau modèle pour le gel. Parce que je crois que, comme on est assuré pour la voiture, on doit être assuré pour le gel. Tous les agriculteurs et tous les viticulteurs devront être assurés dès l'année prochaine.
Ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Dans le Languedoc, les mésaventures climatiques s'enchaînent. Gel, inondations, tempêtes. En tant que vigneron, vous êtes les premiers finalement à voir de plein fouet le changement climatique.
Oui, effectivement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ce livre en particulier, La nature au cœur, parce qu'en fait, j'ai voulu témoigner de ma vision de ce dérèglement climatique, mais aussi, bien sûr, des recettes à apporter pour qu'on puisse continuer à vivre en harmonie dans ce pays et puis dans le monde.
Alors, vous avez bâti, Gérard Bertrand, un empire viticole en moins de 30 ans, qui pèse plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais avec toujours une ligne de conduite, le respect de la nature. Aujourd'hui, vous cultivez la totalité de vos 1000 hectares en biodynamie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui différencie l'agriculture biologique de l'agriculture en biodynamie ?
Oui, l'agriculture bio, c'est arrêter d'utiliser des intrants chimiques, ce qui est déjà très intéressant. La biodynamie, on va plus loin, puisqu'en fait, on travaille aussi avec les forces du cosmos et de la Lune, vous savez, le célèbre calendrier lunaire. Et c'est un peu l'homéopathie de la vigne, c'est-à-dire qu'on apporte des décoctions avec des pulvérisations à différentes périodes de l'année pour aider la plante à être plus vigoureuse et pour aussi travailler les sols en profondeur. Et quand on a des sols qui sont vivants, on fait des vins de meilleure qualité. Et puis c'est très important aussi parce que ça permet de capter le carbone.
Donc c'est en fonction des astres. Et vous les pulvérisez avec quoi, vos vignes ?
En fait, avec de l'eau. En fait, ça s'appelle le phénomène du vortex. On pulvérise avec 200 litres d'eau, on met, comme de l'homéopathie, on met une dizaine de grammes de millefeuille ou d'ortie, différentes plantes et à différents stades de l'année, et surtout pendant la floraison et puis pendant la période de maturation, où c'est très important.
Alors vous êtes aujourd'hui l'un des leaders mondiaux de la biodynamie. Qu'est-ce que ça apporte au vin en lui-même ? Est-ce que nous, amateurs, on sent la différence ?
Oui, en fait, la différence fondamentale, c'est le goût de quelque chose ou le goût de quelque part. Et un terroir vivant, c'est un terroir qui s'exprime dans le vin. Ça veut dire qu'au lieu, au-delà de sentir les fruits, par exemple, mais vous allez sentir le goût du terroir. Et en bouche, il y a ce qu'on appelle la verticalité, la minéralité, c'est-à-dire que le vin est plein d'énergie. Et le dernier point, c'est qu'on a des acidités qui sont meilleures et aussi qu'on a un potentiel de garde beaucoup plus important. Donc,
c'est un vin qui se conserve bien.
Ah oui, tout à fait. Et puis les grands vins du monde, pour ne pas les citer, comme la Romanée Conti, comme Château Yquem, comme Château Latour, sont ou en bio ou en biodynamie maintenant. Et nous, vraiment, on a labouré en profondeur, puisque depuis 20 ans, on a transformé nos 16 domaines en biodynamie, ce qui était un exploit à l'époque. Et toutes mes équipes qui font un travail formidable, on a 110 personnes qui sont dédiées à ces programmes.
Donc vous avez dû absolument tout modifier, hein, le mode de production.
Tout à fait. Alors, bien sûr, on fait des plus petits rendements. Mais le plus important pour faire du vin, c'est de donner du satisfecit et du plaisir ou du goût aux consommateurs. Et avec la biodynamie, on va même plus loin parce qu'en fait, je pense qu'on peut procurer des émotions plus intéressantes et plus profondes.
Alors, pardon de quitter les émotions pour revenir à des sujets plus terre-à-terre, mais est-ce que ça coûte plus cher un vin cultivé grâce à la biodynamie ?
Ça coûte peut-être un petit peu plus cher, mais sur les grands vins, il n'y a aucune différence. C'est plus un principe, c'est plus un engagement. Et comme je dis dans mon livre « La nature au cœur », c'est une vision différente du monde. Et c'est aussi avoir la volonté de ne pas tirer des crédits pour les générations futures, puisqu'en fait, on est passé d'une logique d'abondance à un défi de la pénurie aujourd'hui. Et il faut se réinventer. Et je considère que la viticulture doit être un exemple pour l'agriculture française.
Oui, parce que vous dites dans votre livre, dans les 20 prochaines années, l'agriculture biologique deviendra la norme en viticulture, la biodynamie, notamment parce que les consommateurs en feront la demande. On est à un tournant, selon vous, hein.
Oui, on est en tournant. C'est un changement de paradigme ou une bifurcation, si vous voulez. On voit le succès aujourd'hui des produits bio. Le label AB en France est très reconnu. Pour le vin, c'est Déméter ou Biodivin pour la biodynamie. Et de plus en plus souvent, les cavistes, les foires au vin et les restaurants, en particulier les sommeliers, font la promotion de ces vins-là. Et ils rencontrent vraiment un écho très favorable auprès des consommateurs et des grands amateurs de vin.
Alors, dans ce livre, Gérard Bertrand, vous développez votre vision de l'homme et de la nature. Vous écrivez « Nous vivons au paradis, nous avons créé les conditions de l'enfer ». Vous dites « On ne s'en sortira qu'à condition que l'humanité soit prête à un changement radical ». Alors, vous n'êtes pas le premier, bien sûr, à faire ce constat, à dénoncer l'individualisme, la société de consommation, la dérégulation climatique, mais vous avez une voix qui porte. On sent vraiment que ce livre, c'est un cri du cœur, hein, pour vous, pour dire « Bougeons-nous, bougez-vous avant qu'il soit trop tard ».
Oui, en fait, j'ai développé cette sensibilité puisque en tant que chef d'entreprise, j'ai 35 ans d'expérience. Et puis, vous savez, la nature, le monde du vivant, quand je me promène dans les vignes, c'est une sorte aussi de méditation active. Et je me suis rendu compte que la nature nous apporte tout. Sauf qu'en vivant au rythme des cantats, des fréquences, on oublie quand même qu'on est sur la planète Terre et qu'on est connecté aussi avec les autres planètes. Et on oublie aussi qu'on est dans un temps différent. Et en fait, prendre un peu de recul, essayer de se reconnecter à l'essentiel, c'est se dire, mais quel est le sens de la vie et qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Et pour moi, c'est un engagement, effectivement, comme vous dites, ce livre, La nature au cœur, c'est vraiment un cri du cœur et c'est une volonté de transmission aussi.
Ouais, on imagine que la crise sanitaire que l'on vit, qu'on est en train de finir de vivre, on espère, a eu une incidence sur cette réflexion que vous avez.
Oui, pour moi, ça a été... une période très intéressante d'introspection, mais aussi de recueillement. Parce qu'en fait, je suis passé d'un excès de voyage à plus de voyage du tout. Et donc, j'ai redécouvert le temps long, j'ai redécouvert cette quiétude et cette volonté aussi de témoigner au travers de ce livre vraiment de mes convictions profondes. Parce qu'en fait, vous savez, on est souvent dans l'action et parfois on en oublie qu'on existe et qu'on a quelque chose aussi de plus important que l'agitation quotidienne et ce témoignage, pour moi, était fondamental.
Vous parlez beaucoup de spiritualité, effectivement, dans votre livre. La foi, dites-vous, est le moteur. J'ai eu l'impression, en vous lisant, non pas de lire un grand entrepreneur à succès, mais un homme qui s'interroge, effectivement, sur des questions existentielles. Un homme qui a fait l'inventaire de la première partie de sa vie, qui est aujourd'hui devenu pratiquement ascète.
Oui, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Vous savez, moi, j'aime innover, j'aime créer. J'ai voulu rivaliser avec les plus grands vins du monde, on y est arrivé. Avec Château l'Hospitalier, Clos du Temple, on a été reconnus parmi les meilleurs vins du monde. Et aujourd'hui, pour la troisième partie de ma vie, je voudrais aussi aider les plus jeunes générations.
Justement, quels sont les conseils, avec votre expérience, votre sagesse, quels conseils donneriez-vous à un jeune qui rêverait aujourd'hui de se lancer dans la viticulture?
Alors, d'abord, les conseils de manière générale, c'est de découvrir quelle est vraiment son incarnation, quelle est sa mission sur cette planète, pourquoi on est fait. Parce que dès qu'on sait pourquoi on est fait, c'est plus facile. Et ensuite, bien sûr, c'est d'en profiter, parce qu'on n'est que de passage, mais en pleine conscience. C'est-à-dire, il y a des choix à faire dans la vie, et le choix le plus important, c'est de devenir soi-même.
C'est vraiment compatible d'être altruiste et entrepreneur à succès ?
Oui, vous savez, le succès a mis du temps à venir, puisque ça fait 35 ans que je suis dans ce métier. On peut dire qu'on a beaucoup de succès depuis 10 ans, mais pendant 25 ans, j'ai trouvé le temps long. Et effectivement, aujourd'hui, je veux en profiter pour faire partager mon expérience.
Alors là, vous avez pris le temps de la réflexion, effectivement, de la rédaction de ce livre. Et puis, ça y est, ça va repartir. Les restaurants, les bars vont rouvrir bientôt, le 19 mai.
On croise les doigts, parce qu'avec la trilogie donc, du Covid, avec la fermeture des restaurants, des taxes Trump et puis du gel, il est temps que le soleil revienne. Alors d'abord sur les terrasses et puis dans les cœurs.
Ça a été une période très compliquée à vivre pour votre
oui,
profession
2020,
aussi.
On s'en
c'est vrai
souviendra.
Qu'on a beaucoup parlé des restaurateurs, des bars, etc. Mais on a un peu moins parlé des viticulteurs. Mais pour vous, ça a été très compliqué.
Oui, la seule qualité qu'on a, c'est que le vin, en particulier les vins rouges, si on ne les vend pas, on peut les garder, ils se bonifient. Mais c'est vrai que bon, la solidarité en France a été vraiment formidable et que les restaurants, on espère qu'ils vont continuer à promouvoir à la fois l'art de vivre français et puis les vins de nos régions et de nos territoires.
On l'espère. Merci beaucoup en tout cas Gérard Bertrand. Je rappelle le titre de votre livre, La nature au cœur, pour un monde meilleur, la vision d'un entrepreneur engagé pour l'environnement. C'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup d'être venu ce soir en direct sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité et vos grandes voix du vendredi. À tout de suite. 18h30, l'heure du rappel des titres avec vous, Christophe Lamarre.
Les chiffres de l'épidémie s'améliorent. Tous les indicateurs sont en baisse alors que la vaccination a franchi le seuil des 600 000 injections hier. Les médecins, les épidémiologistes invitent à rester prudents avant les prochaines étapes du déconfinement. Selon Santé publique France, le variant britannique représente désormais 80% des cas positifs, très loin devant les variants sud-africains et brésiliens. 26 cas de variants indiens ont été détectés jusqu'à présent. La France, qui élargit la quarantaine obligatoire à 7 pays supplémentaires, dont la Turquie, les voyageurs devront s'isoler pendant 10 jours à leur arrivée sur le sol français. 10 millions d'euros pour renforcer la sécurité des commissariats de police, annonce du Premier ministre Jean Castex, qui a prévu de rencontrer les syndicats de policiers avec le ministre de l'Intérieur en début de semaine prochaine. Et puis le football, un derby du Nord décisif dans la course au titre et à l'Europe en ouverture de la 36e journée de Ligue 1 ce soir. Le leader lillois se déplace à Lens et puis, enfin, Florian Thauvin quitte l'OM et prend la direction du Mexique. L'international français signe au Tigre de Monterrey. Pour 5 ans, il retrouvera l'ancien Marseillais Pierre-André Gignac.
Merci Christophe Lamarre. L'info revient avec vous à 19h avec un nouveau journal complet. Anissa Haddadi, demain ce sera comme un avant-goût d'été, on en a bien besoin.
Oui, un week-end estival ensoleillé, très agréable. Alors, seules les côtes de la Manche seront concernées par un temps un petit peu plus gris, des Hauts-de-France jusqu'à la Bretagne. Là, nous aurons un ciel un petit peu plus couvert avec des averses et des rafales de vent d'ouest toujours. Mais alors, sur le reste du pays, et en particulier sur la moitié sud, on aura un soleil très généreux qui va s'imposer. Il fait beau et il fait surtout chaud, 2 à 14 degrés demain matin. Et dans l'après-midi, le thermomètre s'affole puisque nous aurons 30 degrés à Bordeaux demain après-midi, 29 à Brive-la-Gaillarde et Biarritz, 28 degrés à Toulouse. Dans certaines régions, on va faire un plus 10 degrés par rapport à aujourd'hui.
Même.
26 à Clermont-Ferrand et Limoges, 25 pour Châteauroux, 24 à Lyon et Marseille, 22 degrés pour Paris, 18 à Lorient et 17 à Brest. C'est là qu'il fera le plus frais. Alors profitez-en bien ce week-end. Mais
ne nous dites pas la suite.
Je vous dis juste que la semaine prochaine, ce sont les saints de glace.
Oui, je sais.
Je dis ça comme ça.
Je sais. Merci Anissa. À tout à l'heure, 19h pour un nouveau point météo.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
18h31, il est temps d'ouvrir notre débat des grandes voix du vendredi avec ce soir à mes côtés Guillaume Tabar, rédacteur en chef, éditorialiste au Figaro, l'historien Jean Garrigue et Stéphane Werner, rédacteur en chef délégué et directeur de la rédaction de West France à Paris. Bonsoir et merci à tous les trois de m'accompagner ce soir. Le drame d'Avignon, la mort de ce policier Éric Masson, tué alors qu'il procédait à un contrôle antidrogue, ce drame est en train de prendre un tour politique. Après le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, c'est Jean Castex qui lui a rendu hommage aujourd'hui et le Premier ministre en a profité pour annoncer le renforcement du déploiement de policiers et de gendarmes sur le terrain et de l'argent aussi pour renforcer la sécurité dans les commissariats de police.
Le gouvernement est également parfaitement conscient de l'impérieuse nécessité de protéger celles et ceux qui nous protègent. Notamment suite au drame de Rambouillet, j'ai décidé de dégager immédiatement une enveloppe de 10 millions d'euros pour renforcer la sécurité des commissariats de police.
Jean Castex, ce matin à Sarcelles, 10 millions d'euros pour renforcer la sécurité des commissariats de police. Est-ce que ça va suffire pour calmer la colère des policiers ? Parce qu'il y a une vraie exaspération en ce moment, Stéphane Werner.
Oui, alors il y a aussi ce qu'a annoncé Jean Castex, c'est qu'il y allait y avoir l'audition des syndicats de police à Matignon la semaine prochaine avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Parce que l'exaspération que vous évoquez, il y a plusieurs choses. Il y a la sécurisation des commissariats de police avec les 10 millions qui sont liés à l'affaire de Rambouillet, donc le Premier ministre l'a dit. Mais sur Avignon, il y a autre chose, c'est-à-dire que ça fait 20-30 ans aujourd'hui qu'en fait les trafics de drogue se sont développés de manière très spectaculaire au cœur des villes, dans les centres-villes, à la vue de tout le monde en réalité. Ils ne sont plus dans les quartiers sensibles, ils se sont vraiment ancrés au cœur des villes. Et vous avez, ce qui est relativement nouveau, de plus en plus de rivalité entre les bandes pour contrôler les meilleurs endroits où le deal se fait, là où tout le monde le voit. Et en réalité, depuis plusieurs années, les fonctionnaires de police interviennent régulièrement pour attraper les dealers. Mais la justice ne suit pas, simplement parce que, en fait, ces gens qui dealent se sont parfaitement conscients de la manière dont les choses se passent au niveau judiciaire. Ils savent comment faire pour avoir des stocks intermédiaires, des relais, ne pas avoir de dose sur eux. Et donc régulièrement, vous avez des gens qui sont arrêtés, qui passent au commissariat, qui sont auditionnés, qui ensuite sont libérés. Et un quart d'heure après, les policiers les retrouvent les mêmes à l'endroit et ils recommencent à dealer. Et donc il y a cette exaspération-là. Aujourd'hui, il y a une volonté de mettre un frein à ces phénomènes. On demande aux policiers de mettre beaucoup plus de pression. Ça ne suit pas forcément à tous les échelons. Et surtout, ce qui est également très nouveau, c'est que vous avez beaucoup de rivalités entre bandes pour contrôler les meilleurs endroits. Et désormais, c'est une rivalité qui passe par des affrontements armés. Et vous avez beaucoup de villes moyennes, c'est pas que des grandes métropoles, mais vous avez beaucoup de villes moyennes en province qui ont ce type de phénomène en cœur de ville. Moi, j'en parle en circonstance, en connaissance de cause.
Directeur
de
Rennes,
par exemple, c'est un phénomène très, très marqué. À Nantes, vous avez des affrontements armés autour du trafic de drogue. Il y a des règlements de compte à Rennes aussi. Et en réalité, le drame d'Avignon, il se lit aussi comme ça. C'est-à-dire que vous avez des fonctionnaires de police auxquels on demande de mettre la pression sur les trafiquants, sur les dealers, qui font le boulot. Et aujourd'hui, vous avez des dealers qui sont dans une logique de défense de leur territoire et de leur meilleur spot, qui passent par des affrontements armés entre bandes et qui considèrent finalement la police qui vient les gêner dans leur trafic comme une rivalité supplémentaire et qui n'hésitent plus à tirer. Et je crois que c'est ça aussi qui fait que cette affaire est extrêmement choquante, parce que malheureusement, des fonctionnaires de police qui sont tués dans l'exercice de leur fonction, il y en a régulièrement. Mais là, je pense qu'on voit vraiment la manière dont le phénomène s'est transformé et l'ampleur du problème. Et ce n'est pas à coup de millions qu'on va le régler. C'est-à-dire qu'il y a aussi un nouveau dialogue à trouver entre la police, la justice, autour de ces questions.
Oui, parce que les policiers ils disent qu'ils en ont marre de ces politiques qui font semblant de découvrir à chaque fois, à chaque nouveau drame, une situation que eux ils dénoncent déjà depuis des années. Hein.
Oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu surréaliste d'entendre des annonces sur la protection de ceux qui sont chargés de nous protéger. Bien sûr, très bien, je pense que tout moyen qui sera mis en œuvre pour renforcer la sécurité des commissariats, protéger les personnels, et c'était évident, il faut le faire et tant mieux. Mais voyez où on en est arrivé, c'est-à-dire qu'il faut protéger ceux qui nous protègent, alors que le combat, il devrait être plutôt contre ceux qui nous menacent, et non pas toujours renforcer ceux qui nous protègent, mais attaquer davantage ceux qui nous menacent. Et puis c'est vrai que cet éternel débat entre la réponse policière et la réponse pénale, j'ai éternel parce que depuis que la police qui existe, hein, on a toujours ce débat entre la police et la justice. Régulièrement, les nouveaux gardes des Sceaux et les nouveaux ministres intérieurs disent « mais ça y est, maintenant on va s'entendre, on va travailler main dans la main ». Et une fois de plus, on a sentiment d'un hiatus. Souvenez-vous qu'il y a encore une semaine à peu près, lorsque, après le drame de Rambouillet, Xavier Bertrand avait parlé, alors il avait employé une expression maladroite de peine automatique, il voulait parler de peine plancher en cas d'attaque contre les policiers, Éric Dupond-Moretti lui avait répondu vertement sur le thème c'est scandaleux. On n'avait pas retenu le débat sur le débat sémantique, mais le débat sur, en gros, est-ce qu'il faut durcir ou non les peines. Et voilà, et je ne trouve pas très adroit, on va dire, de la part du garde des Sceaux, de donner le sentiment d'être du côté, du côté pénal, c'est normal, mais de ne pas prendre plus en compte cette dangerosité. Et quand il dit « je suis le ministre des détenus », bien sûr, puisqu'il est ministre de la justice, donc aussi des prisons, donc de ceux qui sont dans les prisons, mais je ne suis pas sûr que ce soit le message principal que l'opinion attend d'un ministre de la justice aujourd'hui.
Alors Stéphane Vernet disait tout à l'heure, ça n'est pas qu'une question d'argent. Jean Garrigue, de quelle façon aujourd'hui est-ce que le gouvernement peut rassurer les policiers et les gendarmes ?
Oh, c'est très compliqué. Je rappelle quand même que depuis la crise des Gilets jaunes, on a assisté à une sorte de campagne menée dans la sphère politico-médiatique par un certain nombre de personnalités, d'hommes politiques, à mon sens, un peu irresponsables, qui mettaient vraiment l'accent sur les violences policières, qui dénonçaient un racisme systémique dans la police, une violence systémique dans la police, ce qui n'existe pas, ce qui est faux. Et c'est quand même très compliqué de redresser la barre après avoir laissé comme ça se développer cette vision extrêmement critique et de la police. Et on est en train de s'apercevoir depuis quelques mois, à la faveur de tous ces faits divers qui sont plus que des faits divers, que précisément les actions, les atteintes aux forces de l'ordre se multiplient. Et les chiffres le montrent. Et qu'il y a un vrai manque de respect pour les forces de l'ordre, pour la police. Il y a un vrai problème de société qui est en train de se créer, qui dépasse d'ailleurs cette reconquête des territoires tenus par les caïds de la drogue, puisque Gérald Darmanin a lancé cette offensive, qui explique aussi beaucoup de choses. Mais on voit très bien que s'en prendre physiquement à des policiers ou à des policières, je pense à cette dame de Rambouillet, là, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui que les Français ne tolèrent plus. Mais si vous mettez ça en contraste avec ce qui s'est passé pendant 3 ans, vous avez quelque chose qui est un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'on continue, et certains continuent à mettre l'accent sur cette violence policière, alors que d'un autre côté, on voit bien que la police est exténuée, manque de moyens et qu'elle a besoin justement d'être soutenue. Donc on comprend la réaction des policiers d'aujourd'hui qui n'en peuvent plus. Et là, on voit bien, et c'est ce que disait Guillaume Tabar, c'est que le vrai problème, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est le problème de la réponse pénale. Il y a vraiment à ce niveau-là une réflexion à mener. Elle est très compliquée parce que ça passe aussi par des changements de normes, par peut-être des changements constitutionnels. C'est très, très compliqué à mener, par la formation des magistrats. On parle aussi de la formation d'ailleurs des forces de l'ordre, des policiers. Ce sont des solutions qui sont complexes, mais je pense que moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est à quel point l'opinion publique, là, depuis quelques mois, prend conscience véritablement de la nécessité de restaurer, le mot est peut-être un peu, comment dire, suranné, mais un peu d'autorité quoi, dans l'État.
En tout cas, on sent que l'exécutif, il est particulièrement fébrile, hein, Stéphane Vernet, après ces deux derniers drames qui remettent finalement le débat de la sécurité au cœur du débat actuel, justement.
Oui, alors ça, c'est la question subsidiaire. C'est-à-dire qu'on est tous en train de dire que, d'un point de vue politique, la sécurité, les questions d'autorité de l'État vont être cruciales dans la campagne électorale à venir. Je ne parle pas des régionales, évidemment, je parle de la présidentielle.
On a raison de dire ça ?
Eh bien, écoutez, moi, oui et non, je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis persuadé qu'en réalité, la majorité présidentielle, le président de la République et la République En Marche n'a pas du tout intérêt à faire campagne sur cette thématique-là, parce que de toute façon, ces thèmes-là, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il faut monter le Front National, le Rassemblement National, pardon, c'est tout bénef pour Marine Le Pen. Donc, ils n'ont pas du tout intérêt à faire campagne sur ces thématiques-là. Et je pense que, en réalité, la volonté du président de la République, la majorité présidentielle, c'est d'éreinter le sujet, de l'épuiser, c'est-à-dire le traiter maintenant, avant la campagne pour les présidentielles. Et ce gouvernement, cet exécutif, va pouvoir aborder la campagne l'année prochaine en disant, écoutez, on a quand même fait beaucoup de choses autour de ces questions, les renforts policiers, plus 10 000 postes, etc. Vous avez la réforme de la justice, avec la justice de proximité qui est en cours. Vous avez la loi sécurité globale, enfin bon, la loi séparatisme, vous pouvez mélanger. Il y a plein de choses sur lesquelles ils peuvent dire non mais ça on a déjà fait, parce que je pense qu'eux ont tout intérêt et ont envie plutôt de faire une campagne sur les territoires, la relance, la réindustrialisation, la jeunesse.
Et donc, on oublie la sécurité.
Non,
vous êtes d'accord avec ça, Guillaume Tabar ?
Enfin, juste pour terminer, le problème qu'ils vont avoir, si vous voulez, c'est qu'ils ne maîtrisent pas l'agenda, ils ne maîtrisent pas l'actu. Moi, je pense que leur calcul est là, mais ils peuvent être rattrapés à n'importe quel moment par l'actualité. Il suffit d'un fait divers crapoteux, excusez-moi pour l'expression, mais 3 jours avant l'échéance. Et en fait, tout ce plan de com' et cette façon de faire campagne, elle sera mise cul par-dessus tête.
Un papivoise comme en 2002.
Exactement.
Oui, vous êtes sceptique. Hein.
Bah oui, enfin, je trouve même assez paradoxal. Je suis d'accord avec vous sur la première partie, à savoir qu'il ne suffit pas de dire ni même de faire pour être crédible et qu'on dira toujours qu'on n'en fait pas assez. C'est vrai, mais je ne conseillerais pas au gouvernement de ne plus parler du sujet Parce que je pense que en parler, ça ne garantit pas forcément la victoire, mais ne pas en parler, là, je pense que ça garantit tous les procès en déni du sujet. C'est-à-dire que le sujet, ce n'est pas les politiques qui l'inventent, il est sur la table. Bon. Oui. Et je trouve aussi, moi, je réagis toujours quand on dit « Attention, si on parle de ça, ça fait le jeu de Marine Le Pen, ça fait monter le Rassemblement National. » Mais, pardonnez-moi, la question du trafic de drogue, la question de la sécurité, ce n'est pas de savoir si c'est bon ou mauvais pour Marine Le Pen. La question, c'est de savoir est-ce qu'il faut lutter contre ou pas. Et je pense que c'est précisément en ayant cette obsession politique de dire « Attention, n'en parlons pas, parce qu'on fait le jeu de Marine Le Pen », ça a l'air de dire « La question elle-même n'est pas importante. » Si la question est importante, et c'est elle qu'il faut traiter en tant que telle. Les conséquences politiques, j'irais dire, elles viendront par surcroît. Mais vous voyez, je pensais, c'était vrai aussi sur la question du chômage. On disait, il faut faire baisser le chômage parce que sinon, c'est bon pour Le Pen. Non, il faut faire baisser le chômage parce que c'est bon pour les salariés qui retrouvent un emploi. Il faut lutter contre l'insécurité, non pas parce que c'est pour faire baisser Marine Le Pen, mais parce que c'est bon pour ceux qui ne seront pas les victimes ni du trafic de drogue, ni de l'insécurité.
Ah, mais je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'ils ont intérêt à le faire maintenant.
Faut le faire tout le temps.
En tout cas, ils ont intérêt à le faire. Et je parlais de l'élection de 2002. Lionel Jospin, en grande partie, il a perdu cette élection parce qu'il n'avait pas de solution sur la sécurité. Donc il y a un moment où Emmanuel Macron, y compris dans sa tentative d'inflexion vers la droite, centre-droit et même vers la droite, il aura besoin de ces électeurs-là. Et pour avoir ces électeurs, il aura besoin de leur parler de sécurité.
Bien. Écoutez, je propose qu'on marque une courte pause, les grandes voix, et puis on va se retrouver dans un tout petit instant. On va parler du feuilleton en PACA. Ça continue, à tout de suite. 18h46, suite de votre débat des grandes voix sur Europe 1, toujours avec Guillaume Tabar, rédacteur en chef, éditorialiste au Figaro, l'historien Jean Garrigue et Stéphane Werner, rédacteur en chef, délégué et directeur de la rédaction du journal Ouest-France à Paris. Allez, on va parler de ce nouveau rebondissement dans le feuilleton des Républicains, après la démission d'Hubert Falco avant-hier, celle de Christian Estrosi hier. Ce matin, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, a annoncé qu'elle serait finalement tête de liste pour La République En Marche en région PACA.
Je suis candidate et la majorité présidentielle sera représentée au premier tour. Ça ne changera plus. L'objectif était de pouvoir répondre à cette main tendue que Renaud Muselier avait fait mercredi dernier. Depuis, ça a déchaîné quelques égos masculins avec des invectives, avec une violence absolument stupéfiante. Moi, je parle plutôt même d'un combat de coq parisien auquel on a eu droit.
Sophie Cluzel, chez nos confrères de France Info, qui prend clairement le contre-pied de Jean Castex, puisque ce week-end, le Premier ministre avait annoncé au journal du dimanche qu'il se désistait au profit de Renaud Muselier. Vous comprenez ce qui se passe, vous, Guillaume Tabar?
Déjà, il faut prévenir que le feuilleton n'est pas forcément terminé.
C'est
parce
sûr.
Que ce matin, Sophie Cluzel a dit qu'elle ferait une liste, que ce serait la liste de la majorité. J'ai cru comprendre que dans la journée, de nombreux responsables nationaux et locaux de La République En Marche continuaient à lui dire non, il ne faut pas faire de liste, il ne faut pas y aller. Donc attendons le 16 mai, parce que le 16 mai, c'est le dépôt des listes, on saura vraiment, ce qu'il en est.
Ça veut dire que c'est un coup de bluff, peut-être?
Non, mais je pense que maintenant, vous savez, la malheureuse Sophie Cluzel, elle a quand même été ballottée et instrumentalisée dans cette affaire-là. En gros, on lui conseille d'y aller. Christophe Castaner, Thierry Soler lui dit « Vas-y, fais une liste ». Ensuite, pour des raisons nationales, on lui dit « Non, il faut se retirer ». Je ne suis pas sûr même qu'elle était totalement dans la boucle de tout cela. Alors après, puis on lui fait assurer le service après-vente. Bon, et puis ensuite, l'opération capote. Et puis d'elle-même, elle essaye de se rattraper. Enfin, je veux dire, c'est bon. Y compris pour elle, je ne trouve pas que la méthode était très, très élégante ou très, très respectueuse. Il y a un petit paradoxe quand elle dit « Oui, tout ça, c'est le fruit d'état-major parisien ». Ben, précisément non. Ce qui se passe au sein de la droite, c'est une affaire locale. C'est Estrosi-Ciotti Estrosi et Falco contre Ciotti, Lisnard et d'autres. Donc c'est vraiment une guerre interne, royale. Et c'est du côté de En Marche que la stratégie, elle est nationale. C'est bien eux qui ont décidé que c'est le Premier ministre qui annonce un accord à dimension nationale. Donc le paradoxe, c'est que s'il y a eu un jeu d'appareil parisien, c'est plutôt du côté de La République En Marche. Bon.
Ouais, vous êtes d'accord avec ça, Jean Garrigue, quand elle parle de combat de coq parisien, à propos de ce qui s'est passé?
Elle joue sur la corde féministe. Elle a raison, c'est de bonne guerre, mais incontestablement, l'erreur initiale, me semble-t-il, c'est l'intervention de Jean Castex. Il n'y a pas besoin d'abord que le Premier ministre s'empare de cette affaire, parce que sur le fond, on peut très bien concevoir qu'ait pu exister une liste commune entre un Renaud Muselier, Estrosi, mais qui n'est pas dans la liste, mais les partisans de Christian Estrosi, Hubert Falco, etc., et des ressortissants de La République En Marche. Au fond, on voit très bien que c'est quasiment le même électorat qui est visé, d'autant plus qu'une partie de l'électorat captif des Républicains peut aujourd'hui être intéressé par la liste de Thierry Mariani. Donc, ça n'est pas illogique et incohérent qu'il y ait une liste commune. Il faut toujours se méfier des listes communes parce qu'en principe, c'est plutôt quand il y a deux listes qu'au deuxième tour, on est plus fort. Donc déjà, c'est une première maladresse. C'est une maladresse que ça soit Jean Castex qui soit intervenu, d'autant plus qu'on voit très bien comment ça se termine. On peut situer ça aussi dans la politique, c'était ça l'intention, alors à l'échelle nationale, de dislocation par les macronistes des républicains. On voit bien d'ailleurs... Quelque part, c'est révélateur aussi de leur dissension, puisque on voit bien que à la suite de ça, Estrosi et Falco ont quitté les Républicains. Donc tout ça, c'est un peu une tragicomédie qui révèle surtout, me semble-t-il, la faiblesse de La République En Marche lors de ces élections régionales. Mais ça n'étonne personne, on le prévoyait. Et puis les difficultés, malgré tout, des Républicains à trouver une plateforme commune, à trouver une stratégie commune par rapport à ces élections. Et surtout, dans l'anticipation, on le sait bien, de l'élection présidentielle.
Stéphane Vernet, vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, il y a deux lignes qui cohabitent au sein des Républicains. Il y a ceux qui pensent que seul un accord avec Emmanuel Macron permettra la survie. Et puis, il y a ceux qui pensent que la survie vient de la présentation d'un candidat.
Oui, je pense qu'il y a une vraie fracture, mais il y a plein de choses qui se jouent là. En fait, vous savez, sur l'année dernière, sur les municipales, il y a eu plusieurs villes où il y avait des accords, des alliances entre les Républicains, La République En Marche. Ça n'avait pas donné lieu à un battage médiatique pareil, et ça n'avait pas marché du tout d'ailleurs. C'est-à-dire que là où les candidats républicains se présentaient avec des candidats, en prenant des candidats à La République En Marche, ils ont fait des très très mauvais scores, ça n'a pas marché. Là, il y a vraiment eu la... On peut se dire que ça aurait pu faire moins de bruit, mais il y a eu une volonté manifeste en envoyant Jean Castex faire une déclaration dimanche, il y a une volonté de nationaliser l'affaire. Donc, je pense qu'il y a aussi une partie, effectivement, il y a une volonté de la part de La République En Marche de fractionner un peu plus les Républicains. Ce qui est quand même étonnant dans cette histoire, c'est qu'on pouvait penser, après quatre années de quinquennat, que en fait, le siphonnage de la droite par La République En Marche était terminé, que les choses s'étaient stabilisées, que c'était fini. En fait, ce que nous apprend ce psychodrame en cours, c'est que ce n'est pas fait, c'est qu'il y a encore une partie de la droite qui trouve Emmanuel Macron plus à droite... qu'elle ne l'est, donc la dislocation des Républicains continue. Peut-être juste par rapport à votre question initiale sur l'attitude de Sophie Cluzel, oui. Là effectivement on n'y comprend plus rien, mais moi je trouve qu'elle est très ambiguë dans ses propos. Elle ne dit pas qu'elle va monter une liste, elle dit « je suis candidate et la majorité présidentielle sera représentée ». Elle le dit deux ou trois fois.
Et elle appelle toutes les forces démocratiques et progressistes à la rejoindre.
Mais alors, souvenez-vous, au moment où l'affaire démarre, c'est-à-dire dès le lundi, vous avez Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui pendant que les Républicains se réunissent en conclave, s'engueulent copieusement, enfin, ils jouent tout ça entre eux, vous avez quand même un Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui dit si, il y aura des membres de La République En Marche sur la liste. De Renaud Muselier, en fait, d'entendre, c'était, eux ne le concevaient pas comme un retrait, mais comme une fusion. Et je me demande si, dans quelle mesure Sophie Cluzel n'a pas renoncé à cela, en fait, si simplement elle pense qu'il n'y a pas moyen d'imposer un certain nombre, contrairement aux déclarations de Renaud Muselier, d'imposer un certain nombre de membres de la République En Marche sur une liste commune. Ça me paraît mal parti, mais je trouve qu'on est en pleine confusion dans cette histoire. Et le problème, si vous voulez, c'est qu'à l'arrivée, c'est un cadeau formidable qui est fait à Thierry Mariani et au Rassemblement national. Parce que le message derrière, il est très clair. C'est de dire, mais la vraie opposition, c'est le Rassemblement national. Regardez les Républicains, ils prétendent être en opposition avec le gouvernement et la politique conduite. Ce n'est pas vrai. Ils font alliance. Et le vrai risque dans cette histoire, c'est qu'un Thierry Mariani prenne la région PACA. Et si ça arrive, je vous promets que la suite de l'histoire ne sera plus du tout la même. Si Thierry Mariani gagne en PACA, tout le débat politique dans l'année qui va nous rester dans la présidentielle, il va être totalement hystérisé. Parce que tout le monde le verra comme les prémices d'une victoire de Marine Le Pen sur la même mécanique pour 2022.
Guillaume Tabar, vous êtes d'accord avec ça? Il peut gagner en PACA, Thierry Mariani, à la faveur de, de ce cafouillage?
Oui, il peut gagner. Rappelons qu'en 2010, Thierry Mariani était tête de liste de l'UMP dans la même région PACA. Donc, il était le porte-parole de toute la droite à l'époque. Donc, vous voyez, il n'est pas un repoussoir pour l'électorat de droite. Puis c'est vrai que tout le monde, là, que ce soit aussi bien LR qu'En Marche, a tout fait pour faciliter le vote en sa faveur. Juste un mot sur la date, parce que c'est vrai qu'on focalise sur le choix d'Estrosi et de Falco de quitter LR. Bon, c'est pas une surprise. Et qui disent qu'ils voulaient soutenir Macron dès le premier tour de la présidentielle, ils l'avaient déjà dit avant même les prémices de ce régional. Donc c'est plus une confirmation qu'un élément qui vient perturber à nouveau le jeu à droite.
Vous ne pensez pas qu'il y aura d'autres démissions là, dans les prochains jours?
Peut-être, mais ce que je trouve plus intéressant de ce point de vue-là, c'est que Xavier Bertrand, qui, souvenez-vous, en 2017, quitte les Républicains et pour le coup crée une fracture à droite entre la ligne Wauquiez et la sienne, et même Valérie Pécresse le suit et quitte aussi les Républicains. Or là, aussi bien Xavier Bertrand que Valérie Pécresse ont clairement dit qu'ils ne voulaient pas de cette alliance avec En Marche des premiers tours. Donc, d'une certaine manière, la droite, parce que, et je pense qu'aujourd'hui, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse sont plus représentatifs de l'ensemble de l'électorat de droite que Hubert Falco ou Christian Estrosi, qui ont une position de force dans leur ville, mais qui n'incarnent pas la droite au niveau national. Quelque part, cet épisode a plutôt ressoudé l'ensemble de la droite ou des droites qui s'étaient divisées après 2017 sur une ligne d'opposition à Emmanuel Macron.
Ah oui, vous pensez vraiment ça? Vous êtes d'accord, Jean Garrigue, que ça a plutôt ressoudé la droite? Donc, c'est Emmanuel Macron, il a échoué. Qu'il avait envie de... Alors,
le dernier épisode semble avoir ressoudé à cette nuance près que Xavier Bertrand, auquel on se réfère, rappelons-le, précisément, il a quitté les Républicains. Je veux dire, par là, qu'on voit très bien, qu'on va assister quand même à ce paradoxe assez unique dans l'histoire de la droite française, c'est que vraisemblablement, le candidat en position éventuellement de l'emporter à l'élection présidentielle de 2022 au nom de la droite ne sera plus membre du principal parti de la droite. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'avait fait Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy, n'aura pas construit sa victoire sur la maîtrise du parti, mais sur une trajectoire externe qui lui permet de reconstituer cette alliance traditionnelle qui fait la victoire des droites. Le problème étant évidemment que sur sa gauche, il aura Emmanuel Macron et sur sa droite, Marine Le Pen et donc en PACA, Thierry Mariani. Donc on va assister à quelque chose de tout à fait inhabituel. Bon, on comprend pourquoi ce qui s'est passé en 2017 a fait exploser les lignes, les partisanes. Mais on peut considérer qu'ils se sont un peu resserrés, mais en même temps, on voit très bien que la solution, elle est hors du parti.
Bien, je vous signale que Thierry Mariani sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1 Les Échos CNews ce dimanche à 10h. Je vous remercie. Merci beaucoup les grandes voix du vendredi de m'avoir accompagné ce soir.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, ce sera le retour de l'info avec le journal de 19h de Christophe Lamarre. À tout de suite.